Juste avant d'entamer l'exposition sur ce passage en particulier, je vais vous lire ce qu'un sénateur français, je suis français, un sénateur français, a dit cette semaine au Sénat. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans la France des Lumières, dans la patrie des droits de l'homme, dans le pays de la tolérance, de la bienveillance et du vivre ensemble, la vraie compassion serait de tuer. Le vrai accompagnement serait l'abandon. Le vrai soulagement serait le suicide. Voilà l'ère nouvelle dans laquelle la législation de l'euthanasie ferait entrer notre pays. La mort, qui est le mal absolu dans toutes les civilisations humaines, devient ici un soin. Ce que l'homme estime être le plus grand malheur devient une douceur, une chance. Quelle inversion totale des valeurs! Cela nous fait entrer dans l'ère de la souveraineté individuelle absolue. Plus de limites, tout est possible, tout est accompli. Alors, ce sénateur, il me semble qu'il n'est pas chrétien, mais il fait état d'une situation actuelle dans le monde. La dernière fois, Paul nous a parlé des versets 16 à 25, et le point principal que Paul faisait alors, c'était que l'Évangile démontrait la justice de Dieu et l'injustice de l'homme. Et aujourd'hui, Paul y continue, Paul qui est l'auteur de l'épître que j'ai lu au début, il va continuer à faire le diagnostic de la nature humaine. L'homme a rejeté Dieu, il en tire des conséquences que l'on a lues aujourd'hui, et l'objectif est de voir comment il s'en sort. Quel est le diagnostic ? Est-ce que l'homme s'en sort bien sans Dieu, ou au contraire, il en tire quelque chose de mauvais pour lui. Je vous propose deux grandes parties pour ce message. La première, ce sera de se concentrer sur l'expression « Dieu livre l'homme à lui-même ». Dieu livre l'homme à lui-même. Et ensuite, on verra que l'homme se livre au mal. Dieu livre l'homme à lui-même. Et Dieu se livre au mal. L'homme se livre au mal, excusez-moi. Donc Dieu livre l'homme à lui-même. C'est une expression qui revient trois fois dans ce passage, qui montre que c'est quelque chose d'important, que Paul martèle au verset 24, Dieu les a livrés, au verset 26, Dieu les a livrés, au verset 28 encore, Dieu les a livrés. Qu'est-ce que cette expression a d'important? Pourquoi est-ce que Paul il nous souligne ça? D'abord, le jugement, il vient de Dieu. Dieu, il ne tolère pas le péché. Quand je suis passé, je me suis baladé cette semaine, juste un petit peu plus loin sur la route, il y a une façade sur laquelle sont peints des mots qui se veulent inspirants. Et notamment, il y a tolérance, la tolérance. Et d'ailleurs, dans le discours du sénateur que j'ai lu, il a aussi parlé de tolérance. La tolérance, c'est la vertu par excellence qui nous est donnée aujourd'hui. C'est le bien, c'est la liberté, c'est l'amour. Mais la tolérance n'est pas bonne en soi. La tolérance est bonne seulement si elle tolère les bonnes choses. Et Dieu ne tolère pas le mal. Dieu est juste. Si vous ouvrez votre Bible au psaume 58, je vous encourage à le faire, ça nous apprend aussi à chercher dans la Bible. Le psaume 58, c'est à la page 387, il est aussi affiché sur les écrans. Le verset 2 nous dit « Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez les hommes avec droiture ?» Et là, l'auteur du psaume, il nous pose une question rhétorique. Est-ce que c'est en tolérant absolument tout de manière passive, en étant indulgent envers le bien comme envers le mal, que l'on est juste? Et la réponse est évidemment non. Si l'on se tait face au mal, si Dieu se taisait face au mal, il ne serait pas juste. Et il prouve donc, par ce jugement, en livrant l'homme à lui-même, qu'il est juste. Il ne tolère pas le mal. Le péché ne peut pas rester près de lui. Il est saint. On l'a chanté. Le jugement vient de Dieu. Ça signifie aussi que Dieu est souverain sur le péché. Dieu est souverain sur le péché. Ce qui arrive aujourd'hui, le fait que l'homme soit livré à lui-même, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident, comme si c'était une situation qui échappait à Dieu. L'homme qui claque la porte au nez d'un Dieu impuissant, qui aimerait bien le retenir, mais qui n'y arrive pas. En fait, c'est l'inverse. C'est l'homme qui voudrait vivre sans Dieu, et Dieu dit, dans sa souveraineté, dans sa seule volonté, sans avoir de pression de personne, je te laisse à toi-même. Et on va voir ce que tu vas devenir. Et c'est lui qui va quitter la pièce, et qui va laisser l'homme tout seul avec lui-même. Alors, on pourrait se dire, oui, bah, et parfois c'est la réaction que l'on a face aux circonstances du monde, c'est, on vit dans un monde terrible, le péché il est à son maximum, mais on doit réaliser que Dieu n'est pas juste parti à l'autre bout de l'univers, et il nous laisse entièrement la terre sous notre contrôle, il reste là. La situation ne lui échappe pas, il garde un œil sur nous, et il ne permet pas que le péché aille au-delà des limites qu'il a fixées. Donc, même si on voit l'homme qui appuie sur l'accélérateur du péché et qui a cette liberté d'aller plus loin dans le péché, Dieu reste au contrôle de la situation. Dieu est souverain sur le péché. Et enfin, le jugement vient de Dieu, ça nous apprend que l'abandon de l'homme le dépasse. Ce n'est pas l'homme qui uniquement a choisi de partir loin de Dieu. Dans certaines religions, et parfois même dans le christianisme, on nous dit que l'homme a fait quelque chose de mal, et donc c'est à l'homme, par ses œuvres, par des prières, par des pèlerinages, par des bonnes œuvres, je vais aller donner de l'argent aux pauvres pour m'attirer les faveurs de Dieu et pour me rapprocher à nouveau de lui. Mais Paul est en train de nous dire, ce jugement vient de Dieu. Et donc, nous sommes dans une situation bien plus désespérée que ce que parfois nous pouvons penser. Ce n'est pas à nous de nous délivrer de nous-mêmes. Dieu livre l'homme à lui-même. Il faut que ce soit Dieu qui délivre l'homme de lui-même. La solution n'est pas en nous-mêmes. On y reviendra encore plus tard. La solution est en Dieu. Dieu livre l'homme à lui-même. Ce jugement, il vient de Dieu, mais on voit aussi une définition de ce jugement en ce qu'il consiste en l'abandon de l'homme à lui-même. Et on peut être étonné d'abord en lisant ça. Parce que la conception que l'on a du jugement, c'est « je suis livré dans les mains de quelqu'un d'autre ». Je suis livré entre les mains d'un juge, je suis livré entre les mains d'une prison où on m'empêchera de faire ce que je veux. Mais le jugement que nous vivons aujourd'hui de la part de Dieu, c'est l'inverse. Au lieu de nous livrer entre les mains de quelqu'un d'autre, Dieu nous livre entre nos propres mains. Au lieu de nous empêcher de faire ce que nous voulons, Dieu nous permet de faire ce que nous voulons. Et ce ne serait pas un jugement si l'homme n'était pas aussi mauvais. Ce serait un jugement s'il n'était pas son propre cadeau empoisonné. Il y a un écrivain français qui disait « L'homme seul est toujours en mauvaise compagnie. » L'homme seul est toujours en mauvaise compagnie. Et le fait qu'il est livré à lui-même, ça doit nous démontrer que l'homme sans Dieu est dans la pire situation qu'il soit. Il n'y a pas pire pour l'homme que d'être sans Dieu. C'est comme si on laissait un enfant dans une pièce, qu'on le laissait choisir entre les choux de Bruxelles et les bonbons, le choisir entre faire ses devoirs et jouer à la PlayStation. On sait ce qu'il arriverait, on sait les choix qu'il ferait, parce que ses choix démontrent son immaturité. Il n'est pas capable de choisir ce qui est bon. Eh bien, la Bible nous dit que l'homme est un enfant spirituel. L'homme n'est pas capable de choisir entre ce qui est bon pour lui et ce qui est mal. Et lorsque l'homme est livré à lui-même, cette immaturité, cet aveuglement spirituel est démontré. En rejetant Dieu, il rejette ce qu'il a de meilleur. On l'avait lu aussi au début du passage, la dernière fois, c'est que l'homme a échangé la vérité avec le mensonge. Et donc, en rejetant Dieu, il va rejeter cet absolu, cette vérité. Lorsque l'on cesse d'écouter la parole de Dieu, on n'a plus que nous-mêmes pour se dire les choses. et on se ment tellement facilement à soi-même. L'homme perd ses repères sans son père. Dieu livre l'homme à lui-même. Donc ce jugement vient de Dieu. Ce jugement consiste en l'abandon de l'homme à lui-même et ce jugement est juste. Il y a une cohérence dans le jugement. Si vous lisez le verset 27, la fin du verset 27, vous voyez qu'il est écrit « Ils ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Et au verset 24, qui ne fait pas partie du texte que l'on a vu, mais qui fait partie du bloc de la démonstration de Paul, « De sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Il y a vraiment un effet de cause-conséquence, de « je travaille dans une certaine direction et j'en perçois le salaire, je sème et je récolte. » Et donc, c'est formidable parce que ce jugement de Dieu, il va montrer à la fois combien Dieu est juste, mais aussi combien Dieu est méchant. L'homme est méchant et l'homme est responsable de lui-même. On ne peut pas dire « ah là là, on est sous le jugement de Dieu, on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes et on est juste victime de ce tyran là-haut. » Non, c'est nous qui voulons ce mal et qui, en voulant ce mal, nous en récoltons les justes conséquences. Vous connaissez le mythe d'Icare, un homme qui se fabrique des ailes et qui devient tellement hautain, tellement orgueilleux qu'il croit pouvoir maintenant aller jusqu'au ciel, jusqu'à la demeure des dieux. Et plus il se rapproche du ciel, plus le soleil consume les ailes qu'il s'est fabriquées et il chute de haut. Et nous sommes dans cette situation. Nous voulons être notre propre Dieu et nous chutons de haut déjà aujourd'hui. Ce jugement est juste aussi parce qu'il montre la nature de l'homme. Je vais faire une comparaison qui est un petit peu peut-être violente, mais qui est reprise dans la parole de Dieu. Lorsque l'on veut montrer la nature sale d'un cochon, d'un porc, on n'a pas besoin de l'envoyer vers quelqu'un qui va le recouvrir de boue. Il suffit de le livrer à lui-même. Vous le laissez faire et il va se vautrer dans la boue, il va aller manger des détritus, il va faire ce qui est sale parce que c'est selon sa nature. Il va démontrer, en le laissant simplement faire ce qu'il veut, qui il est. Et c'est ce que la justice de Dieu, ce jugement contre nous, démontre. Sans aucune influence extérieure, qui est l'homme ? Quel est le diagnostic que nous pouvons faire en nous regardant, en regardant le monde extérieur, de qui nous sommes sans Dieu ? Qu'est-ce que nous récoltons avec notre rébellion contre Dieu ? Et je me permets une parenthèse ici, c'est que la discipline d'Église aussi reflète ce jugement de Dieu. D'une manière ultime, lorsque une personne a été mise en face de la vérité, mise en face de son péché, et qu'elle continue à ne pas se repentir devant l'Église et devant Dieu, l'Église a le mandat de le sortir de l'Assemblée, de le livrer à lui-même. Et donc on voit ce lien-là entre la justice divine et la justice qui doit être rendue par les hommes. Il y a une corrélation là, et on ne devrait pas être étonné du jugement que parfois les anciens doivent pouvoir prendre, parce que c'est exactement ce que fait Dieu. Donc ça, c'était notre première grande partie. Dieu livre l'homme à lui-même. Mais maintenant, la plupart du texte parle de l'homme qui se livre au mal. L'homme qui se livre au mal. Et on va voir ici trois petites parties aussi. La perversion est pratiquée avec l'exemple de l'homosexualité, les versets 26 et 27. La perversion est pratiquée, mais elle est aussi réfléchie avec la liste donnée des versets 28 à 31. Et la perversion est pratiquée, est encouragée, pardon. La perversion, elle est pratiquée. Paul nous donne l'exemple des relations entre femme et femme et entre homme et homme. C'est l'homosexualité. Pourquoi nous donne-t-il cet exemple-là ? Pourquoi est-ce qu'il le met à part dans sa démonstration ? C'est parce que ce péché-là démontre d'une manière particulièrement précise et pertinente ce qu'est le péché en général. Il le dit trois choses. La première, c'est que Ces relations sexuelles ne sont pas naturelles, sont contre nature. L'homme a échangé la vérité avec le mensonge, il a échangé la créature avec le créateur, et il échange désormais ce qui est naturel, l'homme et la femme, avec l'homme et l'homme, et la femme avec la femme. Et je pense que la première chose qui doit nous venir à l'esprit ici, c'est qu'il y a une conception biologique qui fait que l'homme est fait pour aller avec la femme et la femme avec l'homme. L'homme n'est pas fait pour aller avec l'homme, et en fait, c'est quelque chose qui, il me semble, est évident dans le transgenrisme, où on est tellement conscient que ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on va vouloir adapter cette conception naturelle à nos propres conceptions, à notre péché. C'est aussi loin que l'on va dans notre perversité. Et parfois, on aurait tendance à dire ce qui est naturel, c'est ce que l'on voit autour de nous. C'est ce que l'on voit dans la nature, on a les produits qui sont 100% naturels. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Paul ne nous appelle pas, et Dieu ne nous appelle pas, à regarder autour de nous, à regarder comment les animaux font dans leur environnement naturel et en déduire une éthique pour nous. Dieu ne nous appelle jamais à cela. Dieu nous appelle plutôt à regarder à lui et à tirer de lui notre éthique. Si on commençait à regarder ce que font les animaux, on serait prompt au viol, à l'infanticide, au vol. Ce n'est pas ça ce que Paul a en tête. Ce que Paul a en tête, c'est qu'il y a quelque chose de naturel dans le sens regarder à ce que Dieu avait créé à l'origine. Au lieu de regarder à notre échelle, selon notre expérience de la vérité, ce qui est une preuve de rébellion contre Dieu, je déduis de ce que je vois ce qui doit être la norme, c'est plutôt je regarde au travers de Dieu. On a chanté « Sois seul ma vision », mais c'est cela dont il est question. C'est je reconnais que je suis limité, mais que lui est infini, que j'essaye d'apprendre, mais lui il connaît tout, et donc j'essaye de voir comme lui voit. Et je reconnais que ce qui est naturel, ce n'est pas ce que moi je peux comprendre par moi-même, mais ce que lui peut m'instruire. Ça nous amène à la deuxième raison pour laquelle l'homosexualité est dépeinte comme un péché qui montre particulièrement notre perversion en ce qu'il touche à quelque chose de très fondamental. Et là, je vous invite à lire un autre passage dans la Bible, Genèse, c'est le premier livre de la Bible, au chapitre 2, il est également affiché à l'écran. Genèse chapitre 2, les versets 23 et 24. L'homme vient de nommer les animaux. Tous les animaux viennent de passer devant lui et il ne trouve personne qui lui convienne, qui soit comme lui. Et voici ce qu'il dit dès que Dieu crée la femme et la lui amène. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'un. Dieu avait un dessein pour l'humanité. Il avait une mission pour l'homme lorsqu'il l'a créé à l'origine. C'était que l'homme, avec la femme, d'une manière unie, puisse structurer et remplir la création. Structurer et remplir la création. Et de sorte qu'il puisse ressembler à Dieu, montrer justement qui Dieu est. Et le péché, il vient saper cela. Comment est-ce qu'on fait pour rejeter Dieu ? Eh bien, je peux rejeter sa mission. Et je vais rejeter sa mission en rejetant le moyen que Dieu avait conçu pour accomplir cette mission. Je rejette la mission de Dieu que par l'union de l'homme avec la femme, de structurer et de remplir la création, je vais enlever ce moyen-là avec l'homosexualité, par exemple, et comme ça, je vais m'éloigner de Dieu, je vais faire l'inverse de ce que Dieu veut. Et on devrait avoir aussi en tête cette idée de « mais ce n'est pas possible qu'on soit allé aussi loin ». Si on racontait le récit de la création et de la chute, le premier péché à quelqu'un, il pourrait nous dire « bon bah d'accord, l'homme et la femme se sont rebellés contre Dieu, ils ne veulent plus de Dieu, mais au moins, leur relation entre eux, elle reste stable. Et ben, on dirait, ben non. La relation perdue avec Dieu a des conséquences sur leur relation. Ils vont vouloir la place l'un de l'autre, ils vont vouloir dominer l'un sur l'autre. Soit quoi, on pourrait nous répondre, bon d'accord, ils ont des difficultés dans leur couple, mais au moins ils restent ensemble, ils restent unis. Et là encore, on serait obligé de dire, mais non, ils vont se haïr à ce point, ils vont chercher à se dominer à ce point, qu'ils vont préférer se séparer et aller trouver quelqu'un d'autre. Et alors, on pourrait nous dire, bon, d'accord, l'homme, il va loin, il est perverti, il va chercher quelqu'un d'autre, l'union qui devrait être entre eux n'est plus, mais au moins, ce bloc fondamental de l'unité entre l'homme et la femme, elle demeure. Et en fait, là encore, on devrait leur dire non. L'homme est à ce point perverti, il est allé assez aussi loin dans ce qui est fondamental qu'il a préféré changer même cela, même cette chose naturelle, l'homme l'a rejetée. Et la troisième chose à laquelle l'homosexualité démontre par rapport au péché, c'est que l'homosexualité reflète particulièrement bien son idolâtrie. Voici ce que dit la Bible du Semeur dans sa version d'étude. Je lis juste une courte citation. L'homosexualité correspond d'un point de vue éthique à ce que l'idolâtrie est d'un point de vue religieux. De même que dans l'idolâtrie, les hommes expriment leur besoin de l'autre, Dieu, mais en adorant celui qui est leur semblable, une idole, ils reconnaissent leur besoin de l'autre, mais s'unissent à leur semblable. Donc vous comprenez que en voulant changer la vérité en mensonge, la créature au rang du créateur, cela se reflète, cela se voit d'une manière particulièrement claire dans l'homosexualité. On a changé les choses de place. Donc on a vu que l'homosexualité montre que le péché s'attaque à ce qui est naturel, à ce qui est fondamental, et reflète notre idolâtrie. Et je tiens à dire que plus quelque chose est fondamental, plus le péché justement va s'y attaquer. Et plus quelque chose est fondamental, plus Dieu l'aime, plus Dieu y est attaché et plus Dieu va le défendre. Et donc plus nous allons loin dans le péché, plus nous faisons du péché quelque chose d'intime. Et c'est aussi quelque chose qui est évident dans l'homosexualité, c'est qu'on va injecter notre péché dans quelque chose de tellement intime, Dieu va nous juger d'une manière cohérente à nos actes. Et on a totalement abandonné le bien, l'idée de faire le bien, en particulier dans le domaine sexuel, voici quelques exemples. Au lieu de dire à nos enfants que les relations sexuelles sont réservées à un couple marié, on distribue des préservatifs et des pilules contraceptives à l'école. Au lieu d'affirmer que l'embryon est un humain, on préfère légaliser à l'outrance l'avortement pour permettre de vivre la liberté sexuelle. Au lieu de donner à la sexualité son sens d'intimité et d'unité par le mariage, on renverse cela en essayant son partenaire pour voir s'il est sexuellement compatible. Au lieu de comprendre que la procréation est le fruit d'un homme et d'une femme, et d'en déduire que c'est dans ce cadre que l'enfantement et l'éducation devraient avoir lieu, on va plutôt dépasser notre nature, rendre nos désirs possibles et viables par le mariage homosexuel, l'adoption pour les couples homosexuels, même la fertilisation in vitro chez une femme dans un couple homosexuel. Ma femme, elle est enceinte, lorsque l'on va à la maternité, on ne parle plus de mari, on parle de coparent. On adapte notre langage pour rendre justement ce qui n'est pas naturel, naturel. Nous rejetons délibérément la nature pour vivre selon nos considérations. Et donc, je l'ai déjà dit, si on a pour réaction de dire on est dans la pire génération, le péché n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. La Bible, encore une fois, nous aide à savoir que ce n'est pas vrai. Dieu reste au contrôle, Dieu est souverain sur le péché. Si on pense à Sodome et Gomorre, il y a des milliers d'années, deux hommes viennent dans cette ville et toute la ville va se rassembler à la porte de ces visiteurs pour les violer. Ils sont prêts à enfoncer la porte, vieillards, adultes et enfants, pour violer ces hommes. Et donc on voit que cette perversion n'est pas nouvelle, elle prend d'autres tournures, mais elle est universelle, atemporelle. Un autre écueil que l'on doit éviter, c'est de commencer à pointer l'homosexualité, les homosexuels du doigt, en disant « c'est ça le mal ». Les homosexuels sont là, c'est le mal à éradiquer absolument, et nous, nous sommes du bon côté, nous sommes les hétérosexuels. Ça, c'est parfois une réaction que certains ont. Mais la liste que l'on va voir maintenant a justement pour but de nous faire comprendre que nous sommes tous dans ce panier de pécheurs. Nous sommes tous pervertis à notre niveau. Et ça doit nous encourager justement à aborder ces questions, non pas avec une indulgence passive, comme je l'ai dit au début, mais avec compassion. Donc on va maintenant voir à quel point la perversion est réfléchie et répandue avec les versets 28 à 31. Verset 28, Dieu les a livrés, à quoi ? À leur intelligence déréglée. Le péché, c'est un choix volontaire. On a déjà dit que le pécheur était responsable de ses actes, de son jugement contre lui-même. Mais on le voit ici, et on ne peut pas commencer à concevoir l'homme comme quelqu'un qui, certes, pêche par ses œuvres, mais son intelligence demeure intacte, capable de faire le bien. Parfois, on nous dit, oui, l'homme, il fait des choses qui sont mauvaises, mais c'est sous influence extérieure, c'est les circonstances qui l'ont poussé, il est victime de lui-même. Mais on voit que notre intelligence aussi est déréglée. Et c'est quelque chose que nous devons reconnaître pour pouvoir chercher la solution au bon endroit. Nous mettons notre intelligence au service du péché. Nous l'adaptons aux situations, nous la concevons, nous y réfléchissons, nous l'aimons, nous le perfectionnons pour le rendre acceptable selon les situations. C'est aussi important de souligner que l'intelligence est déréglée pour savoir là où commence notre péché. J'ai participé à un webinaire sur les abus sexuels dans l'Église cette semaine et l'un des participants, des orateurs, expliquer qu'on ne vient pas à faire un viol du jour au lendemain. Il y a quelque chose de préalable, un terreau fertile duquel on s'est nourri l'esprit. Ensuite, on passe par des actes intermédiaires. Et si ces choses premières ne sont pas réfrénées, alors nous arrivons aux actes les plus infâmes. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire. Ce que l'on voit de plus infâme, de plus pervers dans notre monde n'est que la conséquence de notre propre conception, de notre propre intelligence déréglée. Le péché engendre la folie engendre le péché, et nous sommes prisonniers, esclaves de notre propre péché. Je vais passer maintenant en revue la liste de tous les péchés qui sont mentionnés là. Parfois, on a un petit peu de mal, qu'est-ce qu'on fait avec cette liste ? Est-ce qu'on doit considérer juste qu'on doit essayer de se retrouver dans chacun de ces péchés? En tout cas, elle témoigne de l'universalité du péché, que dans tous les domaines de nos vies, le péché est là. L'injustice. Laisser ma place à cette femme enceinte ou ce vieil homme. J'ai passé une dure journée et je pense que d'autres sont plus en forme que moi pour leur laisser la place. L'immoralité sexuelle, j'en ai envie. Plus que ça, j'en ai besoin. Et puisque c'est un besoin, j'ai le droit d'assouvir ce plaisir, ce besoin-là par mon mari, ma femme ou quelqu'un d'autre. Ils sont là pour ça. Et on pourrait se dire que c'est peut-être un tableau exagéré. Mais la Suisse reconnaît ce droit au plaisir. Et pour certaines personnes handicapées qui ne pourraient pas peut-être avoir une relation maritale avec quelqu'un, vont dire « cette personne a le droit d'avoir une prostituée qui va aller la voir. C'est un droit et on va payer pour ça. » la méchanceté. Ce gars derrière moi me klaxonne et me met des coups d'accélérateur. Et ben, je vais rouler tout doucement. Comme ça, il va bien voir qui il a en face de lui. La soif de posséder, plein d'envie. Ah là là, sa vie, elle est facile à lui. Hein. Si j'avais sa femme, sa maison, sa situation, sa santé, moi aussi, j'y arriverais. Les meurtres, ce qu'il m'a fait là, c'est inadmissible. Ses parents, ils auraient mieux dû s'abstenir. Et on normalise la mort dans notre société. Cette personne-là, le monde se porterait mieux sans lui. Il est un fardeau pour lui-même et un fardeau pour ses proches. Il faut lui donner l'occasion de partir. Il faut lui donner l'occasion de partir, même s'il n'est pas encore vraiment là. C'est le cas de l'euthanasie, c'était ce contre quoi se parlait le sénateur au début, mais aussi le cas de l'avortement qui est entré dans la Constitution française, où certains spécialistes de la santé se vantent que dans certaines régions, la trisomie par exemple a été complètement anéantie. On est tellement capable maintenant de voir la trisomie avant la naissance et on a tellement normalisé l'avortement que dans certains endroits, on a complètement éradiqué certaines maladies. Et on se vante de ça. On se vante d'être capable de réguler, entre guillemets, la création, le meurtre. Querelle, personne ne me respecte, c'est normal que je m'énerve. Ruse et fraude, c'est chacun pour soi dans sa vie. Il ne faut pas être excessivement juste, il ne faut pas être naïf, tout le monde le fait. Ce n'est pas possible de s'en sortir autrement. La perversité, ça ne fait de mal à personne. Lorsque je suis parti pour me marier quelques jours avant mon mariage, le dernier jour, je pars de mon entreprise. Et là, il y a un collègue qui me dit « C'est pas grave si tu te trompes. Tu vas te marier là avec cette femme, mais on a le droit de se tromper. Tu es jeune. » Et je veux dire, c'est à ce point où on se dit on a, par cet esprit de tolérance, on va normaliser, encourager le péché. C'est de la perversité. Rapporteur et médisant, tu as entendu ce qu'elle a dit. Tu as vu comment il est ce nouveau collègue. Franchement, mais quel abruti. Heureusement que je ne suis pas comme ça. Ennemi de Dieu. Dieu en particulier mérite mon mépris. Ah, si, heureusement qu'il n'est pas là. Parce que sinon, je lui dirais ce que je pense. Et il y a certaines chansons peut-être qui vous viennent en tête. Moi, je cite simplement Highway to Hell de AC/DC. On préfère être en enfer sans Dieu qu'au paradis avec Dieu. Arrogant, orgueilleux, vantard. Et là, je vais prendre un exemple peut-être qui nous saisit plus. Ah, ces homosexuels. Ah, cette société. Oh là là, les gens. Ça ne devrait pas exister. C'est tellement sale. Ça ne vous repousse pas, vous ? Heureusement qu'on est là pour compenser. J'y arrive tellement mieux que les autres. Et en voulant s'extraire du péché des autres, en voulant faire des différences, on tombe dans d'autres péchés. En voulant sortir de ce cycle de folie qui nous est imposé parce que Dieu nous livre à nous-mêmes, on ne fait que confirmer notre jugement. Ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, irréconciliables, sans pitié. Jordan, tout à l'heure, donnait l'exemple d'un raisin. Parfois, on a envie de prendre juste une baie, de prendre juste un seul péché, de se croire suffisamment sage pour pouvoir contrôler un seul péché et ne pas en subir les conséquences. Et finalement, on a toute la grappe qui vient avec. La perversion est donc pratiquée, réfléchie, mais elle est aussi encouragée. Je relis le verset 32, dernier verset. « Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. » Jusqu'à présent, on aurait pu avoir l'impression que le péché est quelque chose d'assez individuel. Je pratique le péché, j'y réfléchis. Mais en réalité, c'est un problème plus global. Nous nous encourageons les uns et les autres au péché. Je vais applaudir le péché de l'autre. Je vais justement me taire, l'accepter, pour qu'en retour, mon péché aussi, mon injustice puisse être acceptée. Et cette perversion, elle est encouragée de différentes manières. On nous dit parfois que le bien n'existe pas, le bien et le mal n'existent pas. Tu peux construire ta vie sur n'importe quel terrain. La définition d'un bon terrain solide et sûr a changé au cours des siècles. Elle dépend des sociétés. Mais la Bible nous dit qu'il y a un terrain qui est sûr et solide. Un terrain sur lequel on peut construire et notre vie sera inébranlable. On remplace aussi parfois le mal par le bien. J'ai déjà mentionné des exemples, mais j'en recite quelques-uns. L'argent est donné à l'État pour pratiquer la prostitution. La légalisation de la pornographie pour tous. On ne met pas de restrictions à l'entrée des sites Internet. De la publicité pour l'adultère dans le métro. Je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais il y a ça en France. Encouragement à rire et à se nourrir du péché dans certains films. Être rebelle, c'est la classe, c'est attirant. L'avortement, c'est une preuve de courage pour les femmes de se débarrasser du joug masculiniste. L'acclamation des artistes les plus rebelles et les dépravés, j'ai parlé d'ACDC, mais c'est le cas. Ou alors, on va nous dire, et c'est ce qu'il y a de paradoxal, c'est que la Bible, en nous mettant ces choses en face de nos yeux, elle n'est pas juste en train de remuer le couteau dans notre plaie pour dire, vous voyez comme vous êtes terrible, et bien vous allez subir le jugement qui est terrible pour vous, vous ne pouvez même pas en sortir. Mais il y a un peu cette idée de remarquer que vous ne pouvez pas vous en sortir par vous-même. Vous vous êtes rebellé contre Dieu, vous en tirez les conséquences, ben maintenant détournez-vous de ça. Et la perversion est encouragée en ce que, face à ce constat-là, on va dire, non, la solution, elle est en toi. Ce sont toutes ces méthodes de développement personnel. Tu dois retrouver ton vrai toi. C'est parce que tu te laisses corrompre par la société, tu te laisses piéger par certains mauvais sentiments. Mais si vraiment tu te libérais de certaines mauvaises pensées et que tu faisais justement selon ce que toi, tu as dans le cœur, ton cœur, il connaît le chemin. Donc si tu obéis à ton cœur, alors là, tu vas réussir. Quel est notre diagnostic? Comment réagissons-nous face à ce constat d'échec? Est-ce qu'on rejette le médecin de nos âmes? Est-ce qu'on implore plutôt pour un remède? En tout cas, c'est ce à quoi j'aimerais, pour conclure, vous inviter. À être à la fois en colère contre ce péché, mais à reconnaître que nous faisons partie de ce problème. Et donc, une tristesse, pleurons sur notre péché. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais en préparant ce message, je me suis rendu compte combien c'était dur, combien j'étais justement insensible par rapport au péché. On a du mal à pleurer sur notre péché, à juste dire « pardon Seigneur ». Il y a une chose qui est pire que d'être livré à soi-même. C'est d'être livré entre les mains de Dieu. Et le jugement aujourd'hui n'est que le reflet, n'est que l'ombre d'un jugement qui viendra ensuite. Dieu il nous dit dans sa parole qu'un jour il donnera à chacun selon ses œuvres. Aucune œuvre ne recevra pas son salaire. Et ce jour sera terrible. Préparons-nous à ce jugement. Reconnaissons que la solution n'est pas en nous-mêmes, que nous avons besoin, que Dieu nous dise sa vérité par sa parole. Dieu nous a livrés à nous-mêmes et nous avons besoin que ce soit lui qui nous délivre de nous-mêmes. Je vous propose encore de prier par rapport à cela et ne dites amen que si vous êtes certain, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Si vous êtes prêt à abandonner ce péché et à rendre à Dieu la gloire. Notre Dieu, nous te remercions pour le témoignage de ta parole, parce que tu nous livres à nous-mêmes, mais tu nous donnes encore la grâce de nous dire la vérité par ta parole. Sans ce témoignage, nous serions parfaitement perdu. Aucun moyen de revenir à notre bon sens, aucune vérité. Mais tu nous fais cette grâce et nous reconnaissons que ce qu'elle dit est vrai. Nous reconnaissons que c'est toi le seul juste, que ton jugement est juste, que ta colère est juste, parce que notre perversion est si totale. Preuve en est notre difficulté à nous repentir, à simplement recevoir cette vérité et à nous plaindre de notre péché. Aie pitié de nous. Aide-nous à marcher dans cette vérité, à ne pas être tolérant à outrance, mais par compassion, à prêcher également cette vérité autour de nous. Délivre-nous de nous-mêmes, notre Père. Nous attendons à toi. Amen.